Alors la zone, ça dit squat, est une émission autour des personnes exilées, vivant en squat à Marseille et avec qui on s'organise. L'idée est d'échanger avec elles et eux sur leur parcours, leurs difficultés et leurs luttes quotidiennes, invisibilisées dans l'espace public et médiatique. Bonsoir à tout le monde.
Salut tout le monde, bienvenue sur Radio Galère 88.4 FM. Et on est aujourd'hui sur la dernière émission de la mensuelle. Alors la zone, ça dit squat.
On est ici avec moi-même, Zouzou et...
Et moi, Thomas, pour cette dernière émission. Et les copains, les autres copains-copines ne seront pas là aujourd'hui, mais on les retrouvera sans doute d'ici la fin des vacances.
Exactement. Et pour cette dernière émission, on avait un peu envie de revoir avec vous toutes les personnes qu'on a interviewées pendant ces mois. On aura aussi un entretien pour ce soir.
Oui, une interview d'un copain qui s'appelle Ibrahima qui a voulu nous donner son témoignage un petit peu sur son arrivée à Marseille et sa situation locative à Marseille.
Oui, depuis 3 ans. Ouais. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ? On lance Ibra ou on discute un peu moi et toi d'abord ?
Et bah, moi, je propose qu'on lance Ibra et puis on prendra un peu le temps après pour débriefer un peu de l'année et puis des différentes personnes qu'on a rencontrées cette année sur l'émission.
Ok, très bien.
Et bah, c'est parti pour Ibra.
I am Ibrahima Diop. I'm from the Gambia. I'm an immigrant in Marseille for 3 years. I'm 18 years old and I'm doing a formation cuisine apprentice. I can talk about the moments I arrive in Marseille. It's kind of a bit experience, another experience that you have, you never know about. It was kind of very difficult. You arrive in Marseille as an immigrant. You don't have nothing, no family, no support. It was very tough. It was a tough time. I arrived Marseille alone at Gare Saint-Sar, 2020. June. Nobody told me to come to Marseille. I just take a train and that train come to Marseille. So I come to Marseille. I like it. I want to stay here. Come here, I see there was sun. It was sunny and other places are very cold and this was nice. And I see some immigrants like me also, you know. Since I arrived at Saint-Sar, you know, I don't know nobody. I asked people and they show me where immigrants, you know, used to hang according to the Gare Saint-Sar. So I go there, this where I start sleeping. Boy, I sleep on the road. Boy, it was tough. Since I start staying at Saint-Sar, I meet a lot of people there who some stay, some continue their journey. Some even today I see them, some I never see them since that time. You know, some guy told me that you have to go to adoptress, you know, and maybe they can find you a place to stay. He's a man who sometimes pass by, give us food there and help us to eat, you know. He's the one who explained me why it's adoptress and he told me you have to go to adoptress and they can help you go to school and take care of you. Adoptress is the department responsible for minors in Marseille, where they do give you housing and they take you to school and help you. I go there and I present myself to them. I explain myself to them. So the first time there is, I meet one lady who, you know, interview me, kind of, you know, ask my name, where I'm from, my age, and he note all down with his computer. And she told me that, you know, we have your number and we will get in touch with you. When we have a hotel, we will call you. So this is how I continue sleeping outside, you know, until one day they call me. They tell me that we have a place for you. And this hotel was at La Juliette Hotel Terminus. So this is how they took me to the hotel. I arrived, I went to adoptress because they tell me to go to their bureau. So I went to their bureau and there was a guy who accompanied us and they told us he's our educator who take us to Hotel Terminus, because that time I don't know Marcel, I don't even know where Terminus is, or Juliet, I don't know all that place. So it's this guy who take us up to Hotel Terminus. And we are two in the same room, so we share the same salle de bain, we share the salon together. And at 2 o'clock we go and take food at Adoptress, so they give you a ticket where you have to go there and get your food there. So in the evening also you have to go there and take your, you know, food for dinner, you know. So it's from 2 o'clock to between 3 o'clock. Because when that time passed, you didn't go there, you are not lucky, you cannot get food. So this is how I started with them. Hotel Terminus, I stayed there nearly 2 months, and they transferred me to another hotel, Hotel Faro. You know, so I stayed at Faro for nearly 7 months, 8 months, yeah. And after, they don't accept my Mino, so they send me out from the hotel. The evaluation is all about that, so they ask you questions to determine whether you are a minor or not. So, me, evaluation, they just ask you how you come to France, you know, which road do you take until you reach at France, and they just note down. So it's all 3 hours. Most of the time it's 2 people, one with the computer, and this other guy will be asking you, so you explain your journey. So from there, they will tell you, okay, we'll tell you your results. So they decide, you know, whether they accept you or not. You cannot know nothing about that. They tell you everything. They tell you it's the procedure. So you have to accept anything they told you, because you don't know nobody here. You have no family. You have no help, and you need help. You sleep outside. It's difficult outside. So you just also will talk to them and respond to the questions they ask you about your family, how you come to France, why do you come to France, you know. Well, they need you to, you know, tell them, you know, tough stories, stories that will be, you know, so hard, you know, things that you go through, and they are very painful stories. So those are the stories they would like you to tell them, and maybe they can have sympathy for you and accept you as minor. It's them who decide, you know. There is no doctor who decide, or there is no, your papers, they don't ask you no paper, even you don't come with your birth certificate. If there is no document on you as an illegal migrant, you tell them vocally like that. It's them who decide whether to take you or whether to drop you. So it was sad, you know, because I was outside and my school teacher who called, you know, Sankens, and the lawyer who was helping me also tell me she will try to help me find places. And I went to Sankens. So I start sleeping at Sankens, but the same teacher also at this lycée I was helping me. She was kind to me, and the same address is what they all gave me with the teacher and my lawyer. So they tell me to go there, that's Veneuve Boulevard Reform, National Boulevard National. Because she want to make sure that, you know, I get help to get my passport and my documents so that she can make appeal for me, for them to accept me again. That was the reason I go to these associations, and also if they can help me to find a better place, because that time I was going to school, Sankens was kind of very rough place. You cannot sleep at night. There are a lot of different kind of people who are mixed there. How I say, very bad experience. Sleeping in John Sankens. For me, I never like it, you know, because I'm just with these old drunkards, you know. They come night, they disturb every place, the places. The toilets are not good. The shower, you cannot take shower properly. And every morning you go to school, you don't go to school. You have to go out before night. So you have to stay there also for 15 days. And that after that 15 days, they give you, you know, 2 days extra. So you come back if they accept you again. No, I remember I stayed in Sankens less than a week. And this is where I met. Why I miss you? I met a good friend, Julia, who helped me. Well, and she start giving me places. First, she take me to her friends, and those people also were nice, and they helped me, lodge me for some weeks. Then I go to in squad also at Alex. Alex is in squad, say in grand squad, and with a lot of beautiful people, and they are very kind to me. So we were a lot of people there. We share everything. It's like one big family there. And there are people who really like immigrants, and they like to support you, like to give you courage and motive. So everything was collective. They do everything collective on Paraze too. So sometimes one guy will cook for everybody, and every week they have small discussion on how to move their house forward. It's like one big family there. They are cool. It's nice. I feel so comfortable there. I feel good there because they are nice to me. So I never know about squad. It's there I start to know what is squad on the whole, because I think it's a good reason to go and live in a house where there is nobody there, and we all know sleeping outside is very difficult, especially when the cold season starts. It's very hard. So if you see a house where nobody is sleeping there, obviously you would like to go and sleep there to protect yourself. Me, I think it's good. I like to live with people, and anytime, you know, I have the opportunity to open a house with some people just to save ourselves and take care of ourselves, we will do it. Alex, I don't even last there at the end because this squad was demolished. You know, they were eradicated there, and they were asked to move out from there. They make a lot of court case about the place because they invest a lot also in the place. They make some places because it's like a home we are living. Everyone was happy and free there. But at the end, you know, there was kind of any day the police can come and knock the house down. So they were not comfortable with that, and which was also for my safety. So this is why I left them there. And I move out from Alex. Me, I leave Alex, I think less than 2 months, they evicted everyone there. After everything was kind of rough because I was not getting any administrative, you know, support. And it's only people I knew the Alex people, the people of Latrelle, who are helping me time to time with my, you know, they help me food and a place to sleep, time to, but all my administrative level was blocked, and everything was really hard for me. Because before my passport come, it was tough. So my passport come and my lawyer helped me to make the appeal again. So we make that appeal and they accept me again. So I was with them for 2-3 months and they denounced my accept. They said, now I have to go, I legalize my birth certificate because it's in English, I'm an Anglophone. So I have to take it to, you know, how they do my passport, French and English. So this was not, I was not able to do this because the birth certificate have to go up to the French embassy in Dakar. So it was very tough for me. So before I could get all these things, I'm no more me, no, I'm major. So my lawyer also tried to send it by email, you know, through, you know, email, and they asked, you know, how that someone should go there present physically. So it was kind of, I think they just don't want to accept me, and this is very crazy, you know. It's a very crazy moment, it's sad, you know, because it's like they destroy everything, you start again, your school, your anything, because if you are not somebody who don't have help again, you will remain on the street. Because you don't have no place to sleep, you don't have no food to eat, and you cannot go to school. And at the end, the schools will ask you some papers, you cannot get them. So you will end up being on the street. This is why a lot of people are in the streets, because it's not that they want to be on the street, but they don't get help. This is how I live, adopters. And I go with a friend, Casper. So we went to another place, we have some night there. Then from there I went to Latrelle. 1 week here, next week there, another week there. This how everything was, and it was very stressful because you cannot, you are just new to every society. Well, it's because of school, even I changed a lot, because the people who help me always want to see me place so close to my school, because I have to get a lot of transport to go to school. So they always look a place where it's closer to a transport so that I can go to school. So this was the time I was changing a lot, because there was no permanent place for I to stay before. The place I was staying is Latrelle, and it's very long from my school. So when I want to continue staying there, the school will not be working well. I will always be late. This way I move from one house to another, until I get an apartment studio from Pastel and other guys who were helping me every month. They contribute, pay my rent there. So I was in this place for 7 months.
Thank you.
I live in a very make color with some friends, so they are the ones who pay a lot of the money, the rents I contribute, but not when I don't have. But they are the ones who are taking care of me. It's like before again. So they are very nice people also. Well, I like living collectively with people who are not racist, who care about immigrants, who don't look down on us, because, you know, it's all about that. If you live with somebody who like you and care about you, it's nice to live collective. But sometimes it's hard also, you cannot live collective. It's tough sometimes because not everybody have the same kind of, you know, idea but for me, you know, when you are good to me, because me, I get a lot of experience as an immigrant, and you know, there was a lot of pain, and I see a lot of things, you know. So, me, if I live with you, you are kind to me, you know, no matter. I know some people change sometimes, but I think the hearts matter every time. Because we see lots, you know, you come, some people will tell you they like you, and at the end they will just bullshit you, they will dump you. So, well, for me, I live with anybody who shows me that, you know, you like me, and I realize that no matter what, you know, he or she like me, I'll live with you, I don't care. Because even me, I can change maybe sometimes, because sometimes we have a lot of things going in the head, and we come, we change, we are not normal as, we don't like to talk much because of the stress and the difficulties you face every day when you go out in the street, you know, when you don't have papers, it's very crazy. Well, right now I don't have papers at the moment, so with my lawyer we are just trying to, you know, push the dossiers to prefecture. So I started, because I was doing apprentice stage, I started in a restaurant in Marseille. So I spent 8 to 9 months there, and it was not going well with the new chef I was working with. So that's why I left that place. And this April I found another restaurant, because I take my savings and I drop them to a lot of restaurants. So this restaurant, Aix-en-Provence, I start working there since the April, and they make the contract finally. School there, but it's very long. It's nice. The team I'm working with is very nice. But actually, the restaurant, the system there, I don't like it, because it's kind of empty. They don't respect, you know. Especially if you have some paper, they don't pay you as how they should pay you. It was difficult even, you know. So it's with the help of school and others, they are just doing what they should do with the contract. It's difficult, in the working as a immigrant, to be working as a immigrant without documents, or you doing your formation apprentice style, is very difficult, you know, because sometimes you don't meet good people, you meet people who don't care about, you know, immigrant. They will just use you, and you'll just be like a machine there. So instead of, you know, learning your work there, you know, you'll be, my voice, I'm be stressed. Sometimes they don't pay you. They pay you when they like to pay you. You are not paid normally as, you know, other workers. Sometimes they can pay all the, you know, restaurant or all the workers there, and you will be paid in the middle of the month. Or, you know, the boss will just feel like, now I should pay you, and I pay you, he pay you, but you can never have your salary, or you can never have your payment on the first or on the second, or comes out like normal people, everybody who are working. You will meet people who will be even talking to you. They will talk racist to you. You cannot do nothing. They will talk about you every time. They will just laugh at you and think like you are just nobody. So this is something that every day you encounter in working places as a black immigrant without papers. You always have this problem. You will go, there will be somebody there always who will talk bad about you, who will try to, you know, make you sad in your day. It's always fixed. Because they will tell you questions, or they will ask you things which, you know, you even know that, you know, a normal person who is good is to, should not ask someone about this kind of racism. But you have a lot of racism that is going around. But if you are not inside it, you will never knew it. But for us, every day we see a lot of racism. Even around the city, you see racism. Sometimes you can go to some shops, you know, you will see racism in their system. They will not, you know, treat you as other customers. No, they will just... Racism is crazy. It's the worst part of it. I think every immigrant encounter racism, but the black immigrants encounter plus racism. Every immigrant have a lot of racism and difficulties, but if you are African immigrant, you are just like an animal. A lot of people, you know, they are nothing. You can see it from schools. If you start going to schools, you can see they will talk about you. Some even will not like to sit with you in the canteen on the same area. It's kind of a system. The racism you face every day, it goes up to a stage that, you know, you are just used to it. Like me now, I'm just used to it. I'm just too used to racism. I see some people who sit within 5 minutes. I know you are racist. You don't like blacks. You don't like immigrant issue. It make you even feel like, you know, not to do what you like, in the sense that because you are scared, people will talk about you. They will not like what you do. Everything you do in the eyes of a lot of people is nothing. It's just zero. So this is the problem. You know, you have to be working hard. You have to be there to fight for yourself, because you cannot fight the races. You will always be angry in yourself, but at the end when you go, you know, you will meet good people also, like the people, the white people or the people with papers who are, you know, doing this racism stuff to you. You will meet the same kind of people also who are very good to you, and they are never racist to you. They help you. So some really, they are not good, because some, they will just, some even think that, you know, stress, you know, I cannot say everything, but racism is too much, you see, in Marcel. So it will be hard to fight racism, because even the people who should give you papers are more racist. So you cannot do nothing about it. You just have to accept whatever they say and how they want you to be. You just have to accept like that. But when you want to fight racism, you know, you don't have nothing. You are just an immigrant in somebody's land, and you want to fight racism, you cannot do it. Because the people who should help you, who should really, you know, take care of this racism, are the people who are more racist. I feel alone sometimes. A lot of times I feel alone sometimes. In the future, I like to live in some place maybe, but right now I want to finish my diploma in Marcel, and I want to be a good chef someday, because I like what I'm doing. So I like the métier I'm doing, I like it. But it's very difficult before you come out of it. especially when you are just alone without no help. Me, I think now I'm kind of Marcel is part of me because I've been here for so long and it's kind of rough, it's so tense, but it's nice also, it's beautiful. You meet a lot of beautiful people, but they should really do something about these immigrants because a lot of people sleep outside. It's not their aim to sleep outside. It's because of the system that make them sleep outside. Merci.
Merci beaucoup.
Ouais.
Ça va?
Ça va.
Ok, j'arrête. Studio des Radio Galères
88.4 FM avec alors dans la zone Sadisquat
pour la dernière émission de l'année et après on partira en vacances. On est là aujourd'hui dans les studios avec moi-même, Zouzou et Tom et on vient d'écouter la voix d'Ibrahim, un ami qui on a oublié de vous le dire tout à l'heure, il parle en anglais. J'espère que vous avez compris de quoi le parler.
Peut-être qu'on peut faire un petit résumé, en tout cas, pour les, s'il y a des mots qui ont sauté ou qui ont oui. des petites absences.
Ouais, déjà, on remercie Ibrahim pour cet entretien si intime et si puissante. Il a parlé de plein de choses, de son parcours ici à Marseille. Du coup, sûrement l'hébergement précaire, les logements précaires pendant les 3 dernières années. Il a changé plusieurs fois de maison dans des lieux différents. Il a vécu en squat, il a vécu un peu hébergé à droite à gauche, en changeant très souvent. Et tout ça pendant qu'il allait à l'école. Du coup, c'était pas facile pour lui. Il a vécu aux 5 ans aussi.
Ouais. C'est intéressant de voir un peu les différents types de solidarité, à la fois cette pseudo-solidarité de l'État avec le 115 où il raconte à quel point les conditions sont horribles et à quel point la précarité de la rue revient sans arrêt, et ailleurs une autre solidarité qu'il rencontre sur des apéros où il rencontre des amis, il cite quelques noms de ces personnes qu'il a rencontrées et avec qui il va vivre aussi des moments de sa vie en squat, et c'est des belles rencontres je crois qu'il a fait.
Oui. Il nous donne aussi son opinion sur les squats. Il dit que s'il y a des personnes à la rue, alors c'est bien d'occuper un bâtiment pour se protéger. Il utilise ces mots, il dit protect yourself. Et au-delà du squat, il parle aussi d'autres amis qui l'ont aidé dans des colocs plus ou moins stables. Et c'était intéressant pour moi aussi, Tom, tout ce qu'il a dit par rapport au racisme vécu en France.
Ouais, le racisme au travail et pas que, mais en tout cas, ce rapport d'avoir une espèce de double peine entre être un clandestin, en tout cas d'avoir ne pas avoir de papier, mais en plus être un homme noir. Il explique à quel point il a l'impression de le payer tout le temps en permanence en France et d'être discriminé à cause de ça.
Ouais, et aussi dans les travails, du coup la précarité absolue, déjà d'être une personne sans papier et d'être dans un apprentissage où les choses ne fonctionnent jamais comme il voudrait, il est payé parfois quand les patrons il veut. Et il nous racontait un peu tout ça, un peu toute la difficulté de faire avec ces statuts super précaires dans lesquels il est.
Lui travaille il expliquait qu'il travaillait dans la restauration, donc qui fait partie des métiers en tension de notre cher gouvernement. Et donc il a travaillé pour différents restaurateurs, et notamment des restaurateurs, des très gros restaurants dans le sud de la France, et qui refusaient de le payer, en tout cas qui font d'une certaine manière leur économie aussi sur une armée de petites mains qui est dans des situations extrêmement précaires, donc sans papier, et qui profite en tout cas de cette précarité pour ne pas payer les gens, en tout cas, ou d'avoir des grands retards de salaire, et toujours d'essayer de négocier avec ces personnes qui sont extrêmement fragiles déjà.
Oui, et dans cette dernière émission de l'année, tout ce que tu viens de dire, j'ai envie aussi de rappeler un peu tout ce qui s'est passé, non pas tous, mais quelque chose qui s'est passé cette année au niveau national. Il y a une loi qui a été proposée début année, la loi immigration, on pourrait dire aussi contre l'immigration. C'est une loi qui propose des titres de séjour hyper précaire d'année en année, mais justement pour les personnes qui travaillent dans les métiers en tension. Mmh. Et moi, je pense que c'est une loi qui donne une apparence d'accueil, mais c'est vraiment une apparence très fragile parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'ils viennent encore une fois servir à l'économie française sans doute prendre en compte les besoins et les besoins des personnes qui arrivent en France. Mmh. Et là où il y a un manque de travail, alors on régularise, mais attention, on régularise toujours avec une précarité très très forte. Une régularisation ridicule qui dure les temps que l'État français a besoin d'État et que l'économie française a besoin que tu sois là pour travailler pour elle. Et s'arrête les jours où tu es plus indispensable à cette économie-là.
Oui, c'est vrai qu'on maintient en fait les vieilles recettes de la politique immigratoire française qui est, on veut une immigration choisie, qui est une immigration économique, et on aimerait bien que ces immigrés ne restent pas ici quand on n'a plus besoin d'eux. Finalement, les choses ont assez peu bougé depuis les années 60 et on est un petit peu dans une redite avec cette... Je crois que j'ai vu une pièce de théâtre il n'y a pas longtemps à La Criée qui rappelait que, je crois du coup, depuis les années 90, on est sur la 24e réforme du droit de l'immigration. 24 réformes en à peu près autant d'années, quoi. C'est dire qu'on fait une réforme par an sur cette question de l'immigration, et cette pièce questionnait un petit peu le fait de savoir si en fait le pouvoir politique ou les politiques n'étaient pas là à plutôt user de la question migratoire comme un petit peu d'une cause de communication pour réanimer les gens, réanimer la foule, réanimer le peuple, mais que c'était pas vraiment ça le problème.
Et toujours aussi l'immigration, la question de l'immigration est utilisée par la politique pour bouger les gens qui ont droit de vote d'un côté à l'autre, et c'est absolument jamais pensé pour les personnes concernées par ce loi.
Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut-être pour du coup cette dernière émission de Alors la zone ça dit squat, on va nous-mêmes parler beaucoup, ce qui nous arrive assez peu finalement. Mais on pensait que c'était important de conclure l'année en revenant un petit peu sur les différentes personnes et émissions de l'année, en donnant un petit peu des nouvelles de ces personnes ou des collectifs auxquels ils et elles appartenaient. On se refait ce petit tour ?
Yes.
Alors, du coup, en octobre dernier, on était avec...
Le collectif 113.
Oui, tout à fait. Le collectif 113, c'était la première émission de l'année qu'on avait fait.
Exactement. Et le collectif 113, il venait d'occuper les kiosques en haut de la Canebière. Du coup, petit rappel, qui est le collectif 113. Ce sont des jeunes comme Ibrahim à son arrivée en France, déminorisés par l'État français. Du coup... par les départements qui fait une évaluation de l'âge des gens. Et ces jeunes déminorisés, du coup, qui se disent mineurs, mais qui ne sont pas reconnus mineurs, sont de sans-papiers pour l'État français. Du coup, ils n'ont aucun droit, aucune aide. Ils sont complètement à la rue. Et il y a un collectif qui s'est formé l'année dernière, le collectif 113, qui a décidé d'occuper un bâtiment au beau milieu de la Canebière, les 113. Ils ne sont plus là-dedans, parce que du coup, quand on les a rencontrés en octobre, ils avaient occupé les kiosques parce qu'ils allaient être expulsés de ce bâtiment-là, ouais, sur la Canebière, mais ils sont toujours là.
Oui, tout à fait. Ensuite, en novembre, on avait fait une émission avec un ami qui s'appelle Asdin, qui nous avait un peu raconté son parcours migratoire et son arrivée à Marseille, et notamment des belles histoires un peu de squat et de personnes de solidarité avec qui il avait vécu sur Marseille. Alors, petite nouvelle personnelle, Asdin, depuis 3 semaines, a ses papiers, une carte de séjour pour 10 ans. Du coup, félicitations Asdin.
Wow. Yes.
Très content
trop
pour
bien.
Toi, et on espère que tu vas être bien ces prochaines années. Parmi nous en France.
Après, en décembre, on avait parlé avec Isha, ouais, une personne du squat des rues de la République,
ouais,
au sein des rues de la République, un squat qui existe depuis quelques années, peut-être 2, et qui avait vu plusieurs changements de situation. Je me souviens qu'il y avait une partie de cette collectif qui avait déménagé en Rukok dans un autre squat qui a été expulsé. Et les gens, du coup, se sont retrouvés, des familles surtout. On rappelle, c'était au moins 4 familles s'étaient retrouvées dans des hébergements assez précaires à l'hôtel. Et les personnes sans famille, du coup, surtout des hommes adultes, plutôt à la rue. Et dans d'autres hébergements casuals.
Et la rue de la REP avait été ouvert un petit peu dans une campagne de réquisition assez importante à Marseille, qui avait eu lieu notamment sur le quartier de la République, qui est aussi un quartier un peu emblématique à Marseille de la rénovation urbaine et des nombreux bâtiments qui sont vides. Et donc cette campagne de réquisition qui avait été signée par de nombreux collectifs à Marseille, dont El Mamba, Parastou, La CIMAD...
CH3 aussi, CH3. Les collectifs des habitants du 3e, plusieurs collectifs, et aussi le collectif du sang des habitants de rue de la République. Ouais.
Du coup, avait un peu dénoncé cette situation de ce quartier-là en disant qu'il y avait beaucoup de gens à la rue à ce moment-là et qu'il fallait faire quelque chose. Voilà, donc juste pour rappeler que c'était il n'y a pas si longtemps et que le bâtiment du coup, de la place Sadi Carnot, qui était occupé par de nombreuses familles, qui a été évacué puis muré. N'a toujours pas eu de modification. Ils avaient promis qu'il y avait des travaux urgents à faire, c'est ce qui expliquait l'expulsion, mais rien de nouveau à l'heure actuelle.
Oui, pas des travaux là-dedans. Et on rappelle aussi que cette campagne réquisition, elle demandait à la mairie, qui apparemment a le pouvoir de réquisitionner des bâtiments vides, si elle le veut et si elle s'engage à les faire, dans les cas de besoin. Et c'est toujours étonnant, à mon avis, de rappeler qu'à Marseille, il y a 35 000 logements vides et 14 000 personnes à la rue. Ça nous donne un peu l'idée de l'absurdité de la situation actuelle.
Oui, tout à fait.
Et du coup, après, Aïcha, si tu n'as plus rien à dire sur cet argument-là.
Ouais, on peut passer à l'émission suivante, du coup, c'était en janvier, il me semble, avec Baylor. Du coup, c'était un peu une double émission qu'on a fait avec des personnes de l'AUP. Est-ce que tu nous rappelles ce que c'est l'AUP ?
Yes, AUP, ça veut dire Association Usagers de la PADA, et c'est un collectif de personnes concernées par les demandes d'asile. Mais pas seulement, des personnes migrantes, en fait, à Marseille, dont Baylor fait partie, la personne qu'on a interviewée en janvier. L'AEP existe toujours à Marseille avec plusieurs activités. Il y a toujours une permanence juridique dans un nouveau local, d'ailleurs.
Peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Du coup, l'AUP devait se faire expulser quelques semaines après l'émission qu'on avait fait avec eux en février. Donc, on avait fait janvier-février avec eux. Sainte-Basile a bien été évacuée comme bâtiment. On rappelle que le collectif de l'AUP l'appelait le CADA autogéré. Du coup, c'était bien la fin de ce lieu-là. Et donc, comme tu dis, l'AUP ne se termine pas là. C'est une association qui continue de beaucoup travailler pour les demandeurs d'asile et qui accompagne de nombreuses personnes, notamment qui fait de l'appui juridique.
Ouais. Du coup, Sainte-Basile qui est née comme un squat d'hébergement, en fait, où aussi il y avait des réunions, il y avait des retrouvailles, il y avait des soirées, il y avait des moments de partage, mais il était vraiment un cadre autogéré. C'était un lieu où les personnes pouvaient, où un certain nombre de personnes habitaient, a été fermé. Il y a eu des accords avec les propriétaires à travers la mairie et d'autres associations de la ville pour rester sur... un temps, tu te souviens combien de temps
C'était une année, il me semble, une année ou une année et demie, il y a peut-être une rallonge de 6 mois, je ne sais plus trop, mais c'était quelque chose de cet ordre-là.
Et après, il a bien été expulsé à la fin de cette convention, et la mairie leur a donné un lieu qui n'est pas du tout un lieu d'hébergement. Il n'y a pas des personnes qui habitent là-dedans, mais c'est un lieu de réunion.
Oui, tout à fait.
Voilà, derrière le parc Longchamp. Et ça existe, et l'AUP continue à réfléchir du coup sur un lieu qui peut vraiment être un cadre autogéré comme il le souhaiterait.
Ouais, et puis je crois qu'il y a des négociations assez fortes du coup avec des associations marseillaises et les pouvoirs publics, que ce soit municipal et l'État, pour rouvrir une sorte de cadre autogéré. dans les nombreux lieux qui sont vides à Marseille.
Dans les mois de mars, on a commencé à parler du gyptisme, ouais, parce que c'était le mois de l'expulsion de ce grand bâtiment dans les quartiers de la ville de Mai, le gyptisme. Grand bâtiment qui accueillait vraiment plusieurs appartements, des centaines d'appartements, oui, qui a été expulsé depuis mars. Et du coup, il nous a semblé important de se rapprocher des personnes qui habitaient ou qui avaient habité là-dedans. Et du coup, on a rencontré d'abord Wafa, ensemble avec Amel.
Je dirais que même avant de rencontrer ces personnes-là, en fait, on est venu sur place. Donc l'expulsion a été annoncée, l'évacuation du bâtiment a été annoncée par voie de presse par la préfecture. Et donc on est allé sur place et c'est sur place qu'on a rencontré différentes personnes. Puis en lien avec le CHO3 qu'on connaît par ailleurs, qu'on a commencé un peu à remonter la piste des personnes qui habitaient dans ce bâtiment, qui étaient expulsées du coup pour des raisons d'insalubrité selon la municipalité. Voilà. Et nous, ce qui nous intéressait de suivre et de voir, c'était comment allaient être traitées ces personnes-là qui souvent vivaient dans des situations de grande précarité, parfois en situation de squat, et tout ça au milieu d'un certain réseau de vente de stupéfiants. Et donc on a rencontré en effet Wafa et le CHO3. Voilà, le CHO3, peut-être on peut en dire encore un mot, donc le collectif des habitants organisé du 3e arrondissement, qui est un collectif qui s'est monté durant la pandémie du Covid, qui est un collectif très, très puissant, je dirais, dans le 3e arrondissement, où beaucoup de personnes rejoignent ce collectif chaque mois. Donc il y a des réunions de quartier, donc n'importe qui du 3e arrondissement peut rejoindre ce collectif. Je vous invite à aller à regarder sur le net, il y a des informations de partout pour faire les formations et participer. C'est vraiment un collectif d'entraide et de mobilisation qui est super dans le 3e arrondissement.
Après les mois suivants, en avril, on avait rencontré une autre personne qui a habité au gyptisme, Ada, qui on avait rencontré les jours de l'expulsion même, et qui avait dit vouloir bien nous raconter son histoire et discuter avec nous à la radio. Et malheureusement, on l'a retrouvée par téléphone incarcérée dans un CRA.
Oui, il s'était fait attraper le lendemain de l'évacuation du gyptisme par hasard, alors qu'il allait boire un café dans le quartier. Et en fait, le quartier est encore un peu sillonné par beaucoup de police qui est d'habitude très absente de ce quartier, mais là apparemment ils voulaient éviter que le gyptisme soit directement réoccupé par des gens. Bref, en tout cas, il s'est retrouvé au CRA, donc au centre de rétention administrative de Nîmes, dans lequel du coup on lui a rendu une visite, puis on l'a appelé et on a fait une petite interview aussi avec des co-détenus à lui pour un peu parler de la situation du CRA.
Ouais, et du coup Ada et aussi les autres personnes avec lesquelles on a pu échanger par téléphone racontaient la situation déshumanisante des CRA, les non-respects. C'était pendant les mois de Ramadan, du coup, les complets non-respects des croyances religieuses et la situation vraiment horrible dans laquelle ils vivaient.
Et c'est une situation que rencontrent beaucoup de personnes qui passent par notre émission, la situation des CRA, parce que dès qu'on se fait... c'est une situation qui est un peu corrélée au fait de ne pas avoir de papier en France, en tout cas de se faire arrêter sans papier. On risque de partir en centre de rétention administrative et ensuite, si votre pays d'origine vous refuse, peut s'en suivre de longues complications entre la prison pour des refus de tests Covid, des refus de départ, des refus. On peut du coup repasser en prison, puis sortir de prison, se refaire reprendre en CRA et faire un espèce de parcours complètement dantesque pendant des années entre le centre de rétention administrative et la prison.
Oui, et même si on en a déjà parlé ce soir, la loi Darmanin, qui n'est pas encore passée, mais qui a été divisée et décalée suite au mouvement social par la réforme des retraites, elle prévoit aussi d'accélérer les procédures d'expulsion et d'augmenter les cas en France, les postes, les nombres des personnes qui peuvent être enfermées dans les cas. Du coup, c'était assez important pour moi que dans cette émission, il y a un témoignage comme celui d'Ada et les gens autour qui ont bien voulu parler avec nous.
Je dirais que c'est quand même très rare. Du coup, il n'y a pas d'accès en CRA. On ne peut pas avoir des téléphones avec des caméras. Donc, il y a très peu d'informations qui filtrent sur la situation des CRA. C'est quand même une zone de non-droit, ou en tout cas une zone de non-regard où on a peu d'informations qui filtrent. Et on va dire que les médias dominants ne parlent rarement, voire jamais, de ce qui s'y passe et des conditions, malgré le fait que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà signifié qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là, enfin voilà, et que de nombreuses associations se sont mobilisées pour dénoncer la situation extrêmement dure d'incarcération des personnes pour des questions d'asile.
Ouais. Et juste pour rappel aux gens qui nous écoutent, il existe à Marseille un collectif des gens qui réfléchissent et continuent à s'organiser sur la question. Je pense que vous le pouvez trouver sur Facebook, Marseille contre Darmanin. Ils organisent des manifestations régulièrement et samedi dernier, je pense, ils sont arrivés au CRA ici à Marseille pour signifier aux gens incarcérés toute la solidarité.
Et on a fini du coup cette série sur le Gyptis avec Bafodé le mois dernier. Bafodé qui avait été expulsé, du Gyptis avec sa femme et son enfant, et qui nous a un peu raconté vraiment le processus de sélection ensuite dans le gymnase pour définir qui avait squatté. Avait eu le droit de squatter le Gyptis ou pas, enfin en fait qui avait le droit à un logement derrière le Gyptis, qui allait être relogé dans des hôtels, qui n'aurait le droit à rien parce que était en situation de squat, voilà, une espèce de tri comme ça dans un gymnase, et voilà, nous a un peu raconté ça, nous a témoigné aussi de la situation dans les hôtels et du 115, qui est un peu une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages.
Ouais, dans l'hébergement précaire des personnes qui viennent d'un parcours migratoire, les 115 semblent être une étape fondamentale, malheureusement. On rappelle que les 115, du coup, c'est l'hébergement d'urgence proposé par l'État. Et c'est souvent des foyers qui n'acceptent pas la présence journalière. Du coup, ils te réveillent le matin, tu dois sortir, tu dois passer toute la journée dehors, même si, par exemple, tu vas à l'école ou tu vas au travail. Et du coup, à la fin de ton école et ton travail, tu aurais besoin de rentrer chez toi et de t'allonger sur un lit, te reposer un moment. Mais surtout, la difficulté d'accès au logement dans les 115 est quelque chose de... Toute personne qui a déjà essayé d'appeler les 115 sait très bien qu'il faut s'attendre à un échec pendant plusieurs jours.
On avait assisté à une manifestation l'année dernière où du coup le jeu avait été d'appeler le 115 et en fait il n'y a jamais de réponse, on tombe forcément sur une voie informatisée et l'attente est éternelle et du coup des études ont été menées à Marseille pour savoir combien on avait de chances de succès d'avoir un abri pour la nuit quand on appelait le 115 et donc une statistique complètement affolante qui disait que 0,4% des appels du 115 aboutissaient à avoir un logement sur sa tête à la fin de la journée. Ce qui est quand même complètement dingue quand on pense que le droit d'habiter, le droit d'avoir un logement est un droit fondamental que doit faire respecter la préfecture. Donc la préfecture et l'État français devraient être en devoir de fournir à tout le monde un toit pour se loger.
Et avec les témoignages du coup, des Bafodés sur les 115, on rejoint aussi les témoignages d'Ibrahim qu'on vient d'écouter, qui raconte aussi son passage aux 115 et la condition complètement inappropriée dans laquelle il s'est trouvé pendant qu'il allait à l'école, avec des horaires fous à respecter, il pouvait rentrer que la nuit, les lieux étaient absolument sale et il ne pouvait pas faire ses devoirs, il y avait
on ne peut pas faire la cuisine, enfin, y a des situations notamment pour les familles, mais pour les situations en famille avec des enfants en bas âge qui sont complètement absurdes ou en tout cas très loin d'une certaine humanité, donc qui forcent les gens à acheter de la nourriture froide ou tout préparé au milieu de l'hiver, voilà.
Et avec ces 9 histoires, on a un peu refait toute l'année de « Alors la zone, ça dit squat
ouais. »,
qui nous a amené à rencontrer plein de gens et ça a été bien intense et bien intéressant quand même de retrouver toutes ces personnes.
on peut les remercier d'ailleurs de, parce que on nous livre tout, pas, enfin c'est toujours des histoires assez chargées qui parlent de d'une certaine forme d'intimité de son chez soi et de son parcours migratoire. C'est des choses qui sont assez intimes, c'est des choses que les gens n'ont pas forcément envie de raconter, qui sont assez douloureuses aussi. On essaye en tout cas que les gens soient pas de brusquer les gens ou que ça soit pas trop violent, mais on a comme un peu nous l'envie que ça se sache, et je crois que c'était Ada qui disait ça depuis le crack, il voulait que ça fasse du bruit, que les gens le sachent un maximum, qu'ils connaissent les conditions, les histoires des gens, que c'était important, qu'il fallait en parler.
Oui, c'est un peu la raison pour laquelle on fait cette émission. Pour moi c'est ça l'important, c'est de créer un espace où cette voix là soit entendue.
Carrément.
Et Tom, je ne sais pas si s'il est possible ou pas, on n'en a pas discuté à l'avance, mais moi j'ai envie de lancer une chanson là, pendant qu'on discutait. Il y a une chanson italienne qui m'est venue dans la tête. Ouais. Ça s'appelle... Ouais, c'est moi qui l'ai...
Je vais te laisser taper ça. Alors là, imaginez-vous, on est en régie à Radio Galère et on lance YouTube. Enfin, je ne devrais pas dire ça parce qu'on n'est pas censé faire de la publicité, mais ce n'est pas grave. Et du coup, on va se lancer une chanson italienne que Zouzou avait très envie de vous partager. Peut-être en attendant, moi, je peux faire les petites dédicaces à notre équipe chérie, aux personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui font partie de alors, la zone Sadie Squat. Un gros big up à Coco qui est un peu parti au bout d'un moment pour faire une petite formation à Embrun. On espère que tout se passe bien là-bas et que tu vas revenir pour continuer l'émission l'année prochaine. Sacha, t'es pas loin du tout, et puis on bosse tout le temps ensemble, et voilà, on va continuer ensemble sans doute.
Et aussi on peut faire un coucou à Yas qui quand même a été là tout le temps en technique à nous soutenir quand il nous fallait de l'aide. Et aussi à Roms.
Ouais, à Roms qui était là parfois et qui on a toujours du plaisir à retrouver ses petites blagues et voilà, et ses conversations sérieuses aussi.
Ouais, moi j'ai un peu envie du coup de lancer cette chanson qui avec un peu de rage dénonce les faits qu'il y a pas d'origine qui veut mieux qui autre et qui ouais et qui du coup ça finit pour dire moi j'arrive de l'univers et voilà il y a pas d'autre mot.
Comment s'appelle comment la chanson et qui chante ça?
C'est Caparezza. Okay. Io vengo dalla luna.
Ok, c'est parti.
Yes.
Inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa. Arriva al punto che quando mi vede sterza vuole mettermi sotto sto signor rotto che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso. Impossibile, vengo dall'universo. L'ha rotto perso, che vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui da partorito una fica. In che saresti il migliore? Fammi il favore, compare, qui non c'è affare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare. Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono strano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna. Io vengo dalla luna. Io vengo dalla luna. Io vengo. Ce l'hai con me perché ti fotto il lavoro, perché ti fotto la macchina o ti fotto la tipa sotto la luna. Cosa vuoi che sia poi? Non è colpa mia se la tua donna di cognome fa Pompilio come Numa. Dici che sono brutto, che puzzo come un ratto, ma sei un coatto e soprattutto non sei Paul Newman. Non mi prende che ti striscio la tua fiction e appiscio sul tuo show che fila liscio come il Truman. Ho nostalgia della mia luna leggera. Ricordo una sera le stelle di una bandiera, ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era. Era
stupido, ti riempiamo di ninnoli da subito in cambio del tuo stato di libero suddito.
No, è una proposta inopportuna.
uomo, io voglio la luna.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna. Io vengo dalla luna. Io vengo dalla luna. Io vengo, vengo.
Non è stato facile per me trovarmi qui.
Et voilà, c'était Caparezza sur Radio Galère 88.4 FM.
Vengo dalla Luna, je disais Caparezza, qui avec ces morceaux bah, annule un peu toutes les différences d'origine dans un monde idéal où il dit seulement bah, on fait partie du même univers. C'est une vision un peu idéaliste, un peu banale peut-être, mais des fois, ça me semble tellement simple et tellement
facile.
C'est bien
de repartir de la base et puis de repartir aussi sur des touches un peu optimistes, un peu qui donnent la niaque, parce que des fois, on est un peu abattu, mais il faut pas se laisser abattre.
Et en fait, avec cet argument un peu optimiste, un peu facile, en fait, il y a beaucoup de rage dans cette chanson. Il y a beaucoup, beaucoup de rage. Et c'est aussi avec beaucoup, beaucoup de rage que j'avais envie un peu quand même aujourd'hui, 19 juin 2023, rappeler le dernier naufrage dans les eaux grecques, les 14, du coup, juste il y a 5 jours. C'est des nouvelles qui arrivent toujours avec beaucoup de douleur, beaucoup de pourquoi, comment c'est possible qu'on laisse mourir autant de gens dans la mer. Ça arrive trop souvent, ça arrive tout le temps, ça arrive chaque mois. Les derniers gros naufrages avaient été en février dans les eaux italiennes à Cutro, sur les plages d'un petit village de la Calabria. Et ce qui est étonnant, c'est que la dynamique est un peu tout le temps la même. Il y a toujours l'alarmophone qui informe les autorités nationales. Du coup, il y a 5 jours, les autorités grecques, et il y a 3 mois, les autorités italiennes, ensemble avec Frontex. Je ne sais pas si vous connaissez Frontex, mais Frontex est une armée payée entièrement par l'Union européenne qui est censée protéger la forteresse,
les frontières,
Europe, avec tout type de technologies super coûteuses et super à l'avant-garde, avec des microchips cachés dans les forêts, dans les Balkans, avec des drones qui volent dans le nord d'Afrique et sur la Méditerranée, tout type de technologies qui coûtent des milliards et des milliards, alors qu'il y a juste un peu de bon sens et un esprit de solidarité suffirait pour accueillir tous les gens qui ont chasse, auxquels on fait beaucoup de mal. Et du coup, quelques infos rapidement. C'était un navire qui partait de Libye, extrêmement chargé. Il y avait plusieurs centaines de personnes sur le navire. Et on sait aujourd'hui qu'il y a au moins 80 morts, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins qui ont été sauvés. Et du coup, les dispersés sont
disparus.
Ouais, sont énormes. Et on verra dans les prochains jours s'ils seront retrouvés ou pas. mais je pense que c'est important. De...
Oui, bah, surtout à Marseille, où en effet, on voit, j'ai vu passer là, une banderole aujourd'hui qui essayait de montrer aux touristes qui arrivent par paquebot le fait qu'il y avait un peu une absurdité dans le fait qu'on était sur la même mer et que, à la fois pour certains et les personnes avec papier, les Occidentaux, c'est une mer qui est incroyablement belle, c'est une mer dans laquelle on se baigne, c'est une mer qui est un peu un espace de tourisme, qui est un espace de plaisir. Et pendant ce temps, en fait, c'est une mer qui tue énormément. Et c'est pas une mer qui tue finalement, c'est plutôt nous qui tuons dans cette mer. Et c'est nous en Europe qui tuons sciemment avec des agences organisées et dans la désorganisation de nos institutions et des pays avec qui on collabore, on tue des gens chaque mois dans la mer. Et voilà, et c'est un peu là-dessus que lutte, alors pas que en Méditerranée, mais l'association Alarm Fun qui essaye d'aider des personnes qui sont du coup sur ces navires généralement en perdition entre deux frontières dans la mer pour les rassurer, les géolocaliser et les traquer pour que les différents pays puissent venir au secours des personnes qui y sont. Vous trouverez plein d'informations en ligne sur cette association qui fait un énorme travail de référencement des bateaux et aussi d'appui et de conseils pour ces personnes qui sont en mer dans des situations très dures.
Oui, et chaque mois, il me semble, ils font aussi un podcast. Oui,
tout à fait.
Qui est très intéressant, j'ai trouvé très important à écouter. Peut-être sur ça, on peut finir cette
oui,
année de Radio
Galère.
Rendre,
on va rendre l'antenne. Et bah, merci à Radio Galère, à cette super radio, et merci à tout le monde pour cette année. Et on espère se retrouver bientôt sur les ondes du 88.4 FM.
Yes, après les vacances.
Merci beaucoup. C'était Alors la zone, ça dit squat.
Ciao, ciao.
C'est pour qui la liberté, l'égalité, l'éternité.